Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Carnets de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Durant tout le mois d'avril 2013, c'est Radio Aviva qui sera rédactrice en chef de cette émission. Dans ce carnet de région, on partira avec Radio Lodève à la rencontre de Colline Erlimann, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de région, qui nous parlera d'un protocole qui vient d'être signé par la commune du Lodévois. Les anciennes mines de Payère dans les Cévennes gardoises font leur retour dans les médias nationaux, on en parle dans ce carnet de région avec Radio Escapade. Le salon du Multicoque avait lieu à la Grande Motte du 10 au 14 avril, Christian Bourquin, président de la région, y était et livre son sentiment sur ce salon au micro de Radio Aviva. Et enfin, 2015, c'est bientôt et la loi du 11 février 2005 sur le handicap devrait devenir effectivement contraignante à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui de l'accessibilité pour les handicapés ? Nous ferons le point avec Jean-Paul Bourré, conseiller régional délégué à la jeunesse, à la lutte contre les discriminations et au handicap. En milieu de semaine, la communauté de communes du Lodévois-Larzac a signé avec l'État et le département un protocole d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences dans la sphère conjugale. Il s'agit du 9e de ce type dans l'Hérault. Avec les 28 communes de l'intercommunalité, 128 communes sont désormais mobilisées sur ce sujet très important. Colline Erlimann est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de région. Elle répond aux questions de Damien Saintès de Radio Lodève.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme souvent, une situation de violence au sein de la famille intervient la nuit, un week-end. Il n'y avait pas de solution de mise à l'abri et parfois la personne devait dormir en gendarmerie ou chez un élu. Là maintenant, il y a des protocoles qui ont été signés avec des gîtes ou des nuitées d'hôtel qui permettent que ce soit les gendarmes, les élus, les agences départementales du Conseil général, les CCS, tout le monde est bien au courant des possibilités qui sont offertes et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, on aura des solutions pour les mettre à l'abri, en tout cas pendant les deux ou trois premiers jours avant que les services sociaux ou d'autres solutions aient été trouvées. On souhaite que sur le département de l'Hérault, il n'y ait plus une femme à la rue dans ce type de situation et que vraiment on trouve des solutions. Alors on ne va pas mettre des grosses structures un peu partout dans toutes les villes, ça ne se justifie pas, il n'y a pas tant de cas que ça, mais quand les cas se présentent, il faut qu'on ait des solutions. On s'est tous mis autour de la table, l'État, le Conseil général, les municipalités. C'est très simple de faire ces protocoles et j'encourage d'ailleurs, puisqu'on en est maintenant à 128 communes du département, toutes les autres communes de l'Hérault à vraiment formaliser ce type de protocole.
Il en manque beaucoup encore aujourd'hui de communes, environ plus de la moitié à peu près.
Voilà, 128, c'est-à-dire qu'on est à peu près à plus d'un tiers des communes qui ont signé. Il nous en reste encore peut-être 60% qui doivent signer, sachant qu'on n'a pas pris en compte Montpellier, son agglomération, et Béziers, son agglomération, parce qu'on a davantage de structures d'accueil. On a évalué ces protocoles déjà signés, que ce soit les élus, que ce soit la gendarmerie, je crois que ça fait la satisfaction de tout le monde. Il faut savoir que maintenant de plus en plus de gendarmes, de policiers sont formés sur ces questions et savent de plus en plus accueillir les personnes sur ces questions. Que si elles n'osent pas encore, parce que la démarche n'est pas simple, faire le pas de franchir une gendarmerie ou un commissariat de police, il faut rappeler qu'il y a toujours ce numéro national qui est le 3919, qui est un numéro gratuit et qui peut vous aider à trouver les solutions ou en tout cas à franchir le pas de dénoncer ces violences.
Voilà, c'était Colline Erlimann, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de région qui répondait à Damien Saintès de Radio Lodève.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Situées sur les communes de Saint-Félix de Payère et de Thoiras dans les Cévennes gardoises, les mines de Payère, 32 hectares d'un énorme complexe minier exploité pour son plomb et son zinc depuis 1845, sont fermées depuis 71, soit plus de 40 ans. À l'époque, personne ne se soucie d'une éventuelle dépollution. Le problème se pose aujourd'hui aux riverains. Selon un rapport de la société Géodéris rendu au préfet en 2004, le sol est largement pollué au plomb, à l'arsenic ou encore au cadmium. 40 ans donc que les les riverains cueillent des champignons, boivent l'eau des sources, jouent dans les crassiers, bref, vivent sans se douter de cette pollution. Et depuis presque 10 ans et la publication du rapport Géodéris, rien n'a changé. Excédée, une association de riverains s'est alors créée, les riverains des mines de la Croix de Payères. Pauline Bouzige en est la présidente, elle-même riveraine des anciennes mines. Elle explique au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade le but de cette association.
Alors nous l'avons créé car on voulait obtenir des informations concernant des rapports et des analyses qui allaient être faites l'été d'après sur les sols, sur l'air et l'eau autour de ces mines. Et aussi on l'a créé pour informer la population locale des risques liés à cette pollution. Et un petit peu aussi alerter les pouvoirs publics grâce à un riverain qui s'appelle Johnny Bowie qui a lui eu accès au rapport Géodéris de 2004 qui fait état d'un taux assez alarmant, enfin qui fait état d'une pollution, enfin c'est une pollution avérée surtout dans les ruissellements, la mine. Et donc, on a décidé de créer cette association à ce moment-là pour obtenir des informations, parce que sinon, c'était, en tant que particulier, c'était très difficile d'avoir accès à ces infos-là. On est de la région et mon compagnon, depuis qu'il est gamin, il va à la mine, on va jouer sur les terrils, il allait jouer sur les terrils. J'ai moi-même amené mes enfants quand on est arrivé pour faire du toboggan sur les terrils. On a ramassé des champignons, du thym, tout ça. On s'est beaucoup promené là-bas et il n'y avait aucune info à ce niveau-là qui nous disait que ça pouvait, enfin qu'il pouvait y avoir un risque pour nous à ce niveau-là, quoi. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses, hein, même pratiquement aucune. Je pense qu'une fois que les résultats seront transmis, on aura peut-être plus accès, on sera peut-être reçu même, on espère, pour pouvoir discuter de tout ça. Ouais. Il y a pas mal de réactions différentes. Il y a beaucoup de gens aussi de la commune qui se doutaient que c'était un petit peu pollué, mais pas au point de faire des analyses. Pas mal de gens pensent que ça n'a pas d'impact sur la santé des riverains, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dont la famille ou eux-mêmes encore qui ont travaillé dans ces mines à l'époque de l'exploitation. Et qui se disent en bonne santé, et dont les parents ont vécu très âgés. Donc, ils ne comprennent pas trop tout ce remue-ménage quoi, autour de ça. Et d'autres personnes qui viennent de s'installer récemment et qui sont déçues, justement, qui n'ont pas été averties, qui ont eu des droits de construire, un droit de construire leur maison et qui n'ont pas été avertis par la mairie ou par le notaire des risques.
Et depuis, les choses évoluent, notamment grâce à un article dans le journal Libération ou encore un reportage sur Canal+. Le préfet a annoncé cette semaine qu'il allait réunir ses services et le maire sur la base notamment d'un nouveau rapport effectué par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Du 10 au 14 avril avait lieu à la Grande Motte le salon des multicoques. À cette occasion, Liliane Drey a rencontré le président de la région, Christian Bourquin, qui était présent sur les lieux. Christian Bourquin nous explique l'intérêt économique de ce salon. On l'écoute dans un sujet de Radio Aviva.
Christian Bourquin, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Grande Motte pour l'inauguration d'un salon international multicoque et la région est un des principaux partenaires de ce salon.
C'est un salon qui a de l'ambition et montre combien l'industrie nautique est en bonne place dans notre région et puis peut être encore plus prospère. Et ce salon nautique nous démontre aujourd'hui qu'il y a un marché à l'export dans le monde. Et vous le voyez, il y a 6 Français qui exposent, donc 2 du Languedoc-Roussillon, c'est l'entreprise Outre-mer, ici à la Grande Motte, et c'est l'entreprise Catena de Canet en Roussillon. Ces entreprises ont rang mondial et elles ont chacune l'un 60 emplois, l'autre 300 emplois. Ça montre ô combien elles sont bien positionnées. Ce salon, c'est la partie visible de toute la démarche économique de la Méditerranée. Si nous avons fait le Parlement de la mer, c'est pour dire que justement, il faut que tous ceux qui ont une activité économique sur la mer se rejoignent. Je pense aux pêcheurs, je pense aux chercheurs, je pense aux plaisanciers, c'est le cas aujourd'hui. Bref, je pense à tous ces métiers qui doivent être décloisonnés. Ils ne se parlent pas, ils ne se parlaient pas. J'ai fait tout un travail pour que ces forces économiques s'allient et qu'ensemble, justement, on démontre que la Méditerranée, c'est un vecteur économique et la Méditerranée nous permet d'embrasser la mondialisation. Et chacun voit combien c'est important. Je vais vous donner qu'un repère, si vous permettez, pour vos auditeurs, pour positionner la Méditerranée au droit du Languedoc-Roussillon. 90%, vous entendez, 90% du trafic mondial maritime se fait entre l'Asie et l'Amérique, ou entre l'Amérique et l'Asie. Eh bien, dans le trajet Amérique-Asie, bien le trajet, il passe pas par l'Afrique du Sud. Il vient passer au détroit de Gibraltar, la Méditerranée et le canal de Suez. Donc, ça veut dire que ce trafic mondial est à nos portes. Eh bien, l'investissement fait dans nos ports de Sète et de Port-la-Nouvelle, dans le plus petit poussé qui est Port-Vendres et demain l'Audon-Ardoise dans le Gard, démontre qu'on se met en position de capter tout ça. Donc là, c'est pour les marchandises. Aujourd'hui, ici, c'est pour la plaisance. Bref, on travaille sur des leviers économiques que nous fournit la Méditerranée. Oui, c'est l'espoir du développement économique de notre territoire pour demain également.
Christian Bourquin, je sais que la région s'engage beaucoup auprès de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des centres de formation, des lycées qui proposent de cette filière nautique ?
Mais bien sûr, nous avons deux lycées. Le lycée de Sète, qui est le plus vieux lycée en France maritime, et puis mais qui s'est modernisé, bien évidemment. On y a investi des sommes importantes ces derniers temps. Et il y a le lycée qui est complètement neuf, qui a 4 ans d'existence, à Canet-en-Roussillon, où à la fois il y a la pédagogie pour passer des bacs maritimes, sur toutes les filières maritimes qu'il y a. Il y a les professionnels qui rejoignent ces lycées. Il y a aussi des mini-centres de recherche où des jeunes ont expérimenté des choses avec le matériel qui est dans ces lycées. Et moi, j'ai retrouvé des chefs d'entreprise ici qui me disaient, dans le secteur de la glisse notamment, qui me disaient, grâce à ces lycées qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont d'abord formé, qui m'ont ouvert les portes pour expérimenter mes produits, bien, j'ai pu monter mon entreprise après. Et il y a les instituts de la mer, il y a celui de Saint-Cyprien aujourd'hui, demain il y en aura un dans le Gard. Bref, et puis il y a tout cet argent que nous mettons pour la formation des 17 000 adhérents de la Fédération régionale de la voile, répartis dans 52 clubs dans la région. Bref, et il y a toute cette filière que nous aidons et pour laquelle nous faisons en sorte qu'il y ait cette passion, mais une passion organisée, professionnalisée.
Merci Christian Bourquin.
À bientôt.
Voilà, c'était Christian Bourquin qui répondait au micro de Liliane Drey de Radio Aviva au salon du Multicoque de la Grande Motte le 10 avril dernier.
Carnet de région.
Héros.
Aude.
Gare.
Héros.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Vendredi 5 avril, la région accueillait l'Observatoire régional du handicap, un outil de concertation qui réunit l'ensemble des acteurs régionaux concernés par la question du handicap. L'occasion de faire notamment un bilan de la mise en application de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité. Une loi qui prévoit entre autres de rendre tous les établissements recevant du public accessibles avant 2015 à toutes les personnes atteintes de handicap, quelle que soit la nature de ce handicap. Jean-Paul Boré, conseiller régional délégué à la jeunesse, à la lutte contre les discriminations et au handicap, présidait cette réunion. Nous l'avons rencontré et voici un extrait de notre échange. Jean-Paul Boré.
Jean-Paul Boré, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quel était le but de la réunion d'aujourd'hui ?
Eh bien, c'était de refaire le point sur la loi de l'égalité des chances qui avait été adoptée le 11 février 2005. L'Observatoire régional du handicap s'est créé autour de la discussion sur cette loi pour voir comment la région, qui n'a pas du tout de compétences en matière de handicap, pouvait tout de même s'engager sur la base de ses compétences à elle. Et donc on a mis beaucoup de choses en place, vous imaginez, depuis 2005, que ce soit en matière d'accessibilité des plages, du logement, au niveau de la culture, puisqu'on a créé un festival qui s'appelle Art d'Essence à l'automne. Et nous avons aussi contribué à ce que les gares TER soient accessibles, nous avons contribué à équiper les lycées en matière d'accessibilité, bref. Tout ça a bien fonctionné et il nous avait semblé aussi qu'il était nécessaire de refaire un point sur cette loi compte tenu des rumeurs qui circulent sur les dérogations qui seraient accordées pour prolonger l'obligation qui est faite pour tout établissement accueillant du public et notamment pour les communes à 2015. Donc cette réunion, vous y avez assisté, vous avez vu qu'elle avait été fort riche puisqu'on était autour de 80 personnes, mais avec des personnes de qualité qui sont intervenues comme Pierre Rousseau qui est président du Cap Horizon, M. Balix qui lui est président du GHP, vous avez vu notre directeur David Cyr avec beaucoup de compétences comment il a présenté le rapport Campion concernant ces questions, et puis de là on est sorti. Des idées, comme d'habitude d'ailleurs, puisque c'est à l'intérieur de cet observatoire qu'on fabrique la politique du handicap, c'est de faire en sorte que de ne pas en rester à une éventuelle fatalité qui nous conduirait à repousser les échéances de 2015. Donc je vais, sur mandat de cet observatoire, m'adresser au préfet de région pour lui demander d'examiner avec les maires de communes de plus de 5000 habitants, il y en a 90 en Languedoc-Roussillon, pour voir avec elles, ces communes, où elles en sont, des audits, et des obligations qui leur sont faites, et voir comment éventuellement on peut les aider, parce qu'on sait aussi les difficultés qu'ont les communes. Bien sûr, cette loi, elle est bien, mais si on laisse les communes toutes seules sans aide, eh bien, compte tenu des conditions économiques aujourd'hui, elles peuvent être en difficulté. Donc vous voyez, c'est là où on vient de fabriquer la politique du handicap de la région Languedoc-Roussillon.
Je voudrais qu'on vienne un petit peu sur les obstacles qui freinent la mise en application de cette loi du 11 février 2005. Enfin, voilà, est-ce qu'on va réussir à mettre tout ça en application avant 2015?
Alors, il y a plusieurs sujets dans cette loi. Là, je viens de parler seulement de l'accessibilité physique. Si on continue de parler de ça, ben, il y a des problèmes de moyens financiers. Il y a aussi des problèmes de logements ou de bâtiments anciens auxquels, bien sûr, quand ils sont considérés comme sauvegardés par la DRAC ou autre, ça pose d'autres difficultés. Mais souvent, ce sont des questions de moyens. Et puis, ce sont d'abord des décisions politiques à prendre. Ça, c'est les principaux obstacles. Ensuite, il y a d'autres questions, vous l'avez entendu, comme la formation. Et moi, je milite depuis des années pour que la formation pour les personnes en situation de handicap soit décentralisée et donc mise à disposition des régions comme la formation professionnelle en général. L'acte 3 de décentralisation, normalement, devrait pouvoir le faire. C'est évident que l'obstacle pour l'emploi, c'était aussi la formation. Et l'obstacle aussi pour l'emploi, c'est que les personnes en situation de handicap psychique sont beaucoup moins bien considérées que les autres. Donc il y a de la discrimination. Dans la discrimination, nous travaillons à ce que, avec les accords que nous avons avec la GFIP, avec Cap Emploi, eh bien ça, nous puissions sur ce terrain aussi avancer.
J'ai vu que la région avançait 400 000 euros dans des actions de sensibilisation et d'autres actions. Qu'est-ce que ça englobe, ces actions et ces 400 000 euros ?
100 000 euros, c'est le montant de la délégation qui nous permet de financer toutes les actions. Dedans, il y a le Festival Art d'Essence, il y a le soutien au mouvement associatif, il y a le soutien à des expérimentations en termes de formation, puisque nous finançons l'accompagnement de jeunes trisomiques en milieu ordinaire. Donc ça sert à vraiment impulser de nouvelles politiques, ces 400 000 euros. C'est pas beaucoup, mais ça nous sert de levier, d'amorçage de pompe pour qu'on puisse avancer de manière globale sur l'ensemble des dispositifs.
Vous aviez l'air un peu en colère tout à l'heure contre l'État. Est-ce que l'État a des manquements sur certains points de la question du handicap ?
Oui, et ce que je disais avant le 5 mai 2012 demeure. L'État doit, donc c'est pas le gouvernement, c'est l'État en général, quelle que soit la majorité, doit des centaines de millions aux conseils généraux, et notamment ça a pour incidence que les maisons du handicap n'ont pas suffisamment de moyens, de personnel, qui se dévouent beaucoup, je tiens à le dire. Et donc je prends tout simplement le département du Gard, c'est 400 millions d'euros qui manquent. Donc effectivement, on peut comprendre que les gens soient un peu en colère devant cet état de fait, je le suis aussi. Donc la colère est souvent mauvaise passagère. Je milite donc pour qu'on puisse avancer vers le remboursement de ces dettes.
Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Bourret.
Merci à vous, Radio Aviva.
Voilà, c'était Jean-Paul Boré, conseiller régional délégué à la jeunesse, à la lutte contre les discriminations et au handicap, que nous avons interrogé à l'issue d'une réunion de l'Observatoire régional du handicap qui avait lieu vendredi 5 avril dernier. C'était un sujet de Radio Aviva. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Carnet de Région. Merci aux radios associatives qui y ont collaboré et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Carnet de Région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.